Ville.
Nature.
Végétal.
Architecture.
Quartier.
Paysage.
Biodiversité.
Culture. Le vivant et la ville s'allient à Jardin Jardin, aux Tuileries.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jardin Jardin aux Tuileries, l'événement dédié au jardin urbain et à toutes les formes de nature en ville. C'est en effet d'ici que nous émettons aujourd'hui, tout près du palais et du musée du Louvre, en public, pour cette émission spéciale dédiée au lien entre l'économie circulaire et le jardin. Circulaire, avec un apostrophe E accent grave RE, l'économie circulaire appliquée au jardin, une nouvelle ère. C'est tout à la fois le thème de notre émission, enregistrée ici dans un jardin, et puis c'est aussi le titre du jardin éphémère créé pour cette 17e édition de Jardin Jardin aux Tuileries par les Jardins de Galie en partenariat avec le booster du réemploi. Alors, citons les autres partenaires et non des moindres de ce jardin, Éco-Végétal, Hydralliance, Les Pépinières Imbert, la ferme horticole Théard, Edmond et Fils, Kinarps et, pour notre bonne santé, les Cafés Gus. Alors, le booster du réemploi participe depuis un peu plus de 2 ans maintenant à la transformation, c'est un mot important, vous allez l'entendre, des pratiques de l'industrie immobilière en matière de circularité. Autrement dit, à penser en boucle, où tout est ressource, plutôt qu'un schéma dit linéaire et qui, de fait, limite la création de déchets. Mais encore, ça peut vous paraître un petit peu abstrait. Nous allons aujourd'hui partager le B.A.B.A. de l'économie circulaire. Nos intervenants vont partager leur vision des enjeux et nous donner, c'est très important, des ordres de grandeur ainsi que des pistes concrètes d'action. Et enfin, nous illustrerons comment le jardin n'échappe pas à la règle et peut aussi faire sa mue vers l'économie circulaire et relier de manière concrète, être un peu un emblème entre les enjeux climat et les enjeux de biodiversité. Alors pour en parler, nous sommes heureux de recevoir 4 intervenants très impliqués et chacun à leur manière de longue date sur ces sujets. Avant de vous les présenter, générique.
Ville.
Nature.
Végétal.
Architecture.
Quartier.
Paysage.
Biodiversité.
Culture. Le vivant et la ville s'allient à Jardin Jardin. Aux Tuileries.
Circulaire, circulaire, non ce n'est pas la réplique d'un film du bâtiment au jardin, l'économie circulaire, une nouvelle ère. Pour évoquer ce sujet, nous recevons avec grand plaisir à ma droite Anne Koch, vous êtes directrice du développement durable et de l'innovation de Groupama Immobilier. À votre droite, Xavier Laureau, directeur général des Jardins de Galie. À ma gauche, Mohamed Amaoui, président fondateur de l'association Réa Vie. Et enfin, tout à gauche, Cédric Borel, directeur général d'A4MT et coordinateur, cet organisme d'action pour la transformation des marchés, du booster du réemploi. Alors Anne, point important, quand on parle de réemploi, on nous pose encore souvent la question, s'agit-il d'emploi humain, d'insertion. Et ça résonne avec votre parcours parce qu'au-delà de votre engagement au sein de Groupama Immobilier, vous êtes impliqué dans bien des dynamiques et en particulier des dynamiques humaines. Alors, le réemploi que nous allons évoquer aujourd'hui évoque principalement le réemploi des matériaux. Quoique, on le verra avec Mohamed, ça peut aussi être un levier d'insertion. Anne, dans vos engagements, vous êtes notamment cofondatrice de Solid Office qui vise à fournir aux demandeurs d'emploi des espaces de coworking pour favoriser leur recherche et leur permettre de tisser des liens, et puis également du cercle des femmes de l'immobilier. Vous êtes également cofondatrice de l'association Circolab sur le sujet de, tiens, l'économie circulaire, justement. Alors, comment êtes-vous venu, en dépit de tous ces engagements, au sujet précis de l'économie circulaire? Et puis, question après votre cheminement, quelle définition en donneriez-vous?
Bonjour à tous et à toutes. Merci Pierre pour cette invitation dans un lieu magnifique. C'est vraiment fantastique de pouvoir parler d'économie circulaire dans ce cadre des Tuileries et des Jardins. Alors pour répondre à votre question sur le parcours un peu atypique, effectivement en partant d'une association pour donner un lieu à des chercheurs d'emploi qui sont, quand ils perdent un emploi, expulsés des lieux de bureau. Je trouvais ça assez injuste que des personnes qui ont toujours des compétences, qui ont une valeur et une richesse, ne puissent pas se retrouver dans un lieu pour pouvoir partager des recherches pour trouver un emploi. Donc, il y a à peu près 6 ans, le marché immobilier parisien était assez tendu, c'est-à-dire que vous aviez beaucoup de surfaces vacantes. Et ces surfaces vacantes, je me suis dit qu'il fallait les employer, les réemployer pour des chercheurs d'emploi et les mettre à disposition de ces chercheurs d'emploi. Donc c'était effectivement, comme M. Jourdain, sans le savoir, faire de l'économie circulaire avec des locaux vacants, faire de l'économie circulaire avec des gens qui ont de la valeur et qui en retrouvent sur le marché du travail. Et puis, pendant mon parcours chez Groupama Immobilier, nous avons eu l'opportunité avec d'autres confrères de créer une association qui s'appelle Circolab et qui est effectivement le point de départ de ce qu'on peut appeler notre engagement dans l'économie circulaire et le réemploi des matériaux, qui a été concrétisé de façon très opérationnelle 2 ans après, c'est-à-dire en septembre 2020, par la création du booster du réemploi, où nous avons effectivement confié la mission d'animer une communauté de maîtres d'ouvrage à A4MT, représentée par Cédric Borel.
Alors, Cédric, justement, A4MT, vous nous donnerez cette définition. En anglais, je ne me risquerai pas à utiliser l'accent. Votre obsession, j'ai envie de dire, c'est la transformation, puisque c'est dans votre titre, et la massification, qui est un autre mot qu'on emploie beaucoup. Vous avez notamment créé les concours CUBE, qui sont, de manière beaucoup plus compréhensible, les championnats de France des économies d'énergie. Et mon petit doigt me dit d'ailleurs que vous préparez un cube autour du sujet du vivant. Bon, on en reparlera peut-être. Et à ce titre, vous avez accompagné Anne et Laetitia Georges, que l'on salue ici, dans la création du fameux booster du réemploi. Alors, même tarif que pour Anne, quelle est votre définition de l'économie circulaire? Et puis peut-être une définition un petit peu plus académique. Je crois qu'on distingue la réutilisation, le réemploi, le recyclage.
Parfaitement. Alors, justement, je vais commencer par les actions de transformation. Merci Pierre. Et A4MT, donc ça ne fait pas beaucoup de points au Scrabble, mais c'est Action pour la transformation des marchés, Action for Market Transformation. Dans A4MT, on vient tous du terrain. On vient tous du terrain, on est tous des opérationnels qui avons vécu des opérations immobilières ou de construction et dans lequel, à un moment, il nous a manqué du temps, de la connaissance pour réussir à faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de bas carbone, etc. Et donc, on a depuis toujours essayer de porter ces opérations de massification. Comment? Parce qu'en fait, les collectifs en mouvement, animés par des consultants, arrivent à faire bien davantage que le simple conseil qu'on peut essayer de faire dans une seule opération. J'entends que... je vais prendre un exemple sur le sujet du réemploi. Le sujet du réemploi est quelque chose qui est un art difficile. Les pionniers comme Anne, comme les autres maîtres d'ouvrage s'y sont essayés, dans les moments où il avait du mal à avoir des filières, où c'était très pionnier. Et quand un pionnier réussit quelque chose, cette information n'est pas transmise à l'ensemble de la profession, ça reste en silo, et on n'a pas de conditions de massification. Donc on est, nous, au fur et à mesure, en partant d'un think tank qui est l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment, on a créé une entreprise qui fait le portage d'opérations collectives, dans lequel on va tenter de se donner un objectif commun entre faiseurs. On va faire, on va apprendre en faisant, on va mutualiser l'expérience et on va l'essaimer partout dans les opérations de l'ensemble des maîtres d'ouvrage immobilier, mais aussi dans la mobilité ou dans d'autres secteurs économiques maintenant. Et cette modalité collective, finalement, c'est le moyen en fait à coût marginal pour un acteur économique d'accéder à une connaissance tout à fait importante, de pouvoir l'implanter directement dans les projets avec un accompagnement ad hoc très très opérationnel, et de cristalliser une pratique tout à fait significative et vraiment opérationnelle. Ça fait plaisir aux opérationnels. Avant, je dirais, le développement durable très 2010, on alimentait un directeur développement durable qui connaissait plein de choses, qui était débordé par une information très importante, qui commençait à comprendre le sens de l'histoire. Il se retournait vers sa boîte, et puis il trouvait des opérationnels qui étaient le nez dans le guidon et qui n'arrivaient pas à faire. Avec la modalité booster qui a été inventée par et avec Groupama Immobilier, c'est de faire ce programme collectif de production d'informations, de cahier des charges, d'informations opérationnelles, d'aller le porter auprès des opérationnels et de réussir à cristalliser une pratique de réemploi. Alors, je vais répondre à la deuxième question. Le réemploi, effectivement, donc l'économie circulaire, ça va être d'abord tout ce qui se recycle dans ce monde, et donc tout ce qui va toute la matière qui va pouvoir circuler dans ce qu'on appelle une écologie industrielle, on va réemployer la matière, on va la retraiter et le recycler. Et la part noble de l'économie circulaire, c'est le réemploi, c'est-à-dire de prendre des objets et de les réutiliser à même destination dans d'autres ouvrages. Quand il s'agit de bâtiments, c'est des pièces de voiture, c'est du réemploi, c'est la partie noble dans laquelle la part de travail industriel qu'on a à faire sur la matière qui circule est tellement faible qu'on sauve du carbone, on sauve des déchets, on sauve de l'eau, bref, on annule un certain nombre d'impacts environnementaux, et ça a l'élégance, en plus, de transformer véritablement de l'économie linéaire en emploi, et on reboucle avec le propos initial.
Alors, chacun va pouvoir l'illustrer, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques ordres de grandeur, c'est-à-dire le gisement total qui peut être réemployé, ou vous parliez d'expériences éparses que vous avez mises en lien pour faire effet booster. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, le réemploi de matériaux dans le monde du bâtiment? Anne, peut-être. Oui.
Je donne juste un chiffre qui effectivement a été le point de départ de notre accélération de projet il y a 2 ans. C'est 42 millions de déchets sont produits chaque année en France par notre industrie de l'immobilier, hors BTP. On s'est dit que 42 millions, ça faisait quand même un certain nombre de ressources disponibles pour réemployer, réutiliser ces ressources. Mais je pense que Cédric a d'autres chiffres à vous donner bien plus importants.
Alors, 42 millions de tonnes, dont moins de 1% fabrique, 42 millions de tonnes, donc moins de 1% fabrique du réemploi. Mm-hmm. Ça, c'est la situation actuelle. Eh bien, la réglementation, mais aussi l'envie de faire de l'ensemble des maîtres d'ouvrage, des gens qui sont dans l'immobilier, nous poussera à ce que 2% de l'ensemble du matériel qui est sorti des opérations en curage soit réemployé, ce qui est tout à fait significatif. Donc la part des 42 millions de tonnes, vous faites un 2%, vous tombez à plusieurs centaines de milliers. Et c'est important parce que on trouve beaucoup de matériel viable dans les opérations en curage. Pour 1000 mètres carrés de bureaux, pour parler chiffres, on est entre 37 et 40 tonnes de matériel viable qu'on trouve et qu'on jetait à la benne d'ici jusque-là. Donc il s'agit maintenant de le confier aux personnes qui sauront le réemployer. Et dans ce grand circuit, donc c'est significatif, mais dans ce grand circuit, ce qui manquait, ce qui était l'intuition originelle du booster du réemploi, c'est que, en fait, cet élan de s'occuper du matériel sortant des curages vient de très loin, vient du Grenelle de l'environnement, ça fait 10 ans. On fait un diagnostic déchets, diagnostic déchets devient un diagnostic ressources, et l'année dernière devient un diagnostic PEMD, dans cet ordre, donc produit, équipement, matériaux, déchets, c'est-à-dire qu'on regarde tout ce qui fonctionne, et à la fin, quand même, il faut constater que c'est du déchet. Et donc, cet élan fantastique a été accompagné par un certain nombre d'entrepreneurs qui s'y sont mis depuis 4-5 ans, qui ont essayé de valoriser sur les plateformes Internet le matériel qu'on pouvait trouver, etc. Il manquait la demande, quelque part dans le marché. Il manquait une demande structurée, confiante, avec une capacité à assurer ses ouvrages à la fin, quand même, avec une capacité à dérisquer l'opération, c'est-à-dire de savoir que la charge de la preuve du fait que le matériel soit viable, fonctionnel, etc., s'en remet toujours à l'offreur. Et donc, il fallait organiser la demande pour qu'elle devienne mainstream et qu'elle soit importante en tonnage pour correspondre à ces 2%. 2% en curage, si on les trouve et qu'il n'y a pas 2% en demande, ça ne sert pas à grand-chose. Le booster, c'est ça. C'est simplement une école d'apprentissage, d'élaboration de cahier des charges, d'apprentissage dans l'effort par les maîtres d'ouvrage et aussi leurs AMO maîtres d'œuvre de comment placer une demande sans risque, et aussi avoir le bonheur de réussir des opérations de réemploi. Et c'est un bonheur brut.
Alors, le bonheur brut, le matériau peut l'être aussi. Vous parlez de structurer la demande pour qu'elle fasse masse et pour qu'elle rencontre une offre qui est assez significative. Combien est-ce que, quand vous avez démarré le booster, il y avait de plateformes dites de réemploi qui proposent des matériaux de réemploi?
Alors, c'est variable. Le Covid est passé par là aussi, mais on était entre 50 et 100 plateformes, soit numériques, soit des artisans du bâtiment qui mettaient leurs erreurs de commande dans un endroit pour se dire ça nous servira un jour, mais mutualisons parce que si je le mets dans mon entrepôt à moi, ça ne sert pas. Des plateformes physiques et vraiment, on en recensait partout. Plus on grattait, plus on en trouvait. Et en tout cas, il y avait le sentiment, c'est qu'il y avait cette urgence écologique. Les gens pensaient que c'était une gabegie de jeter tout ce matériel. Et au fur et à mesure, ça s'est empilé un peu partout. Et des entrepreneurs, pas mal de gens, sont essayés de se mettre sur la vente de ce matériel.
Eh bien justement, la transition est toute trouvée avec Mohamed. Mohamed Amaoui, dans le civil, entre guillemets, vous êtes conducteur de travaux et responsable RSE au sein de l'entreprise FH Construction. Et vous avez créé, et vous êtes le président de l'association Réavi. Je cite, association environnementale à vocation sociale. Et votre vision, telle qu'elle est exprimée sur votre page LinkedIn, c'est « Aucun matériau potentiellement réemployable ne devrait être mis à la benne ». Et vos valeurs, c'est là où on va avoir un petit échange, c'est « Réemploi des matériaux et emploi des personnes ». Ça résonne avec ce que nous a dit Anne. Alors, première question, là aussi, dans le parcours, qu'est-ce qui vous a conduit à vous mobiliser sur ce sujet de l'économie circulaire ?
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi, comme dit Anne, d'être dans un lieu... aussi enthousiasmant pour parler de circularité des matériaux. Alors c'est tout simplement un constat. Donc, je travaille pour FH Construction, hein, je suis toujours salarié FH Construction, et c'est la réalité du terrain, c'est-à-dire des bennes qui se remplissent tous les jours dans les chantiers de réhabilitation. À un moment donné, je dis mais c'est pas possible de continuer à regarder ça et passer à côté sans rien faire. Donc j'ai décidé un jour d'en parler à mon patron, qui a eu l'intelligence, Bruno Chelawa, l'intelligence de dire que c'était un vrai constat et qu'il fallait s'en préoccuper. Il m'a dit fonce, je vais t'aider. Et donc là, j'ai foncé. Donc ça, c'est 2016. Six mois après, Réavi était créé avec des collaborateurs, des FAGE, un des architectes qui était sur des projets de rénovation, donc des personnes qui étaient vraiment sur le sujet. Et l'idée, c'était d'attaquer direct, d'apprendre en faisant. C'est bien, effectivement, de faire des études, mais on a vraiment attaqué. On a trouvé un champ expérimental avec l'école centrale de Châtenay-Malabry, qui était un vrai super terrain de jeu. Plus d'une vingtaine de bâtiments à déconstruire. Donc, on a tout appris là, on a tout lancé comme ça pour initier le concept de plateforme solidaire. Étant un professionnel du bâtiment, il était évident qu'il n'était pas possible de lancer l'économie circulaire des matériaux sans trouver une solution de repli pour ces matériaux. S'ils restent sur le chantier, ils finissent à la benne. Donc il fallait absolument les sortir du chantier et leur permettre d'avoir le traitement qu'il fallait imaginer, la traçabilité, toute l'organisation pour qu'ils puissent trouver une deuxième vie. Ça a été vraiment le premier
point de départ.
Aujourd'hui, il y a trois plateformes qu'on appelle solidaires. Une à Antony, une à la Porte d'Ivry et une à la Courneuve. L'idée étant d'être au plus près des chantiers. Donc ça, c'est grâce au urbanisme transitoire. Donc on reste quand même sur des modèles éphémères qu'il faudra imaginer plus durables, mais ça nous permet d'expérimenter. Donc l'idée, c'est qu'il fallait proposer aux professionnels du bâtiment des services qui alourdissent pas leurs tâches. Dans le bâtiment, dans l'immobilier, c'est déjà très lourd s'il faut leur rajouter des tâches supplémentaires. Donc on propose à la fois des accompagnés sur du diagnostic jusqu'à la reprise des matériaux en passant par la dépose à la fois méthodique mais aussi le curage. Parce que la dépose méthodique est aujourd'hui un surcoût pour les chantiers. Donc il est impossible d'imaginer...
La dépose méthodique, pour celles et ceux qui sont moins familiers, on peut le reformuler comme on va retirer les éléments les uns après les autres méthodique. Dans un ordre qui permet de les réutiliser.
C'est ça, pour préserver les performances du matériau. Je prends l'exemple d'un lavabo. En temps normal, il est cassé avec une masse en 1000 morceaux. Déposé méthodiquement, il faut prendre de bons outils, le déconnecter des réseaux d'évacuation, d'alimentation, et puis le desceller du mur avec des clés à molette pour pouvoir ensuite le sortir et le mettre tout doucement sur une palette parce que c'est fragile. Oui. C'est ça la déconstruction méthodique qui permet le réemploi. Et ensuite, il y a tout le processus à mettre en place de de reconditionnement, d'autocontrôle, pour ensuite fournir des fiches d'autocontrôle et qui permettent ensuite de répondre à la demande qui est en train de se mettre en place grâce au booster du réemploi pour avoir des matériaux qui aient l'air d'être en bon état, neufs, contrôlés. C'est ça l'enjeu ensuite pour pouvoir répondre à l'industrialisation des réemplois. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire sur le recyclage, parce que, étant donné qu'on est sur le curage, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'efforts aussi à faire sur le recyclage. On a des exemples, notamment sur des plateaux de bureaux où traditionnellement, les cureurs mécanisent et font tomber les cloisons de bureau, par exemple, et mélangent le plâtre et la laine de verre. L'écurage responsable que fait Réavi, c'est on dépose proprement le panneau de la cloison pour essayer de sortir la laine de verre qui aide, si elle est entière, on la réemploie. Si elle n'est pas entière, si elle est en chute, on va la mettre dans des sachets plastiques perforés pour maintenir ce matériau nickel pour ensuite l'emmener vers des prestataires, notamment Saint-Gobain, pour qu'ils puissent redevenir du verre. Donc ça, c'est important. On peut aussi parler d'améliorer le tri sur site, améliorer le recyclage pour ensuite avoir le temps de développer la filière du réemploi. Et la deuxième, effectivement, objectif, c'est que tout ça, c'est propice au développement de l'emploi, contrairement à tout ce qui est mécanisé et tout ce qui est collecte par benne. qui était la tendance ces dernières années. Aujourd'hui, pour déconstruire proprement, faire du curage responsable, il faut plusieurs personnes, il faut ensuite les évacuer, donc des livreurs, il faut les amener sur les plateformes. Sur les plateformes, il faut ensuite les reconditionner. Et il faut aussi des vendeurs pour accueillir, parce que dans chaque plateforme, il y a une boutique. Il faut aussi des développeurs informatiques, des personnes qui mettent en ligne sur les boutiques en ligne. Donc il y a tout un panel de création d'emplois qui sont... propice à l'insertion professionnelle. C'est des emplois qui permettent l'apprentissage assez simple, la répétition des tâches, montrer certains éléments pour qu'ils puissent se reproduire.
Vous avez cité les lavabos. Une question pour vous trois avant d'aborder la question des jardins avec Xavier Leroux, c'est quel type de matériaux on peut réemployer aujourd'hui à la cantonade. Par exemple, chez vous, chez Réavi.
Chez Réavi, on peut trouver tout type de matériaux. On va dire que c'est 20% des matériaux qui font 80% des sorties. On retrouve toujours des appareils sanitaires, des appareils électriques. On va retrouver de la menuiserie, donc des blocs portes. On va retrouver de la serrerie avec des boîtes aux lettres, des fermes portes, des mains courantes. Du revêtement de sol, le parquet est un best-seller. Hein. Quand il y a du parquet, ça ne reste pas très longtemps. La dalle de faux plancher technique aussi est quelque chose qui devient maintenant courant, avec une pénurie d'ailleurs. C'est intéressant à remarquer. Donc il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut constater, c'est que tous ces éléments se réemploient. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement cet équilibre à faire entre l'offre et la demande.
Oui.
Et la capacité de l'offre aussi, parce que la demande, on va la créer, mais par contre, l'offre, aujourd'hui, elle n'est pas prête.
Elle ne suivra peut-être pas forcément.
Parce que des plateformes physiques, il n'y en a pas forcément. Des plateformes numériques, il y en a un petit peu, mais les plateformes numériques ont une limite qui fait qu'aujourd'hui, ça ne pourra pas fonctionner si on n'a pas la possibilité d'apporter les matériaux, surtout les grandes quantités, sur un système de grossistes qui existe aujourd'hui sur le schéma traditionnel de la vente et du négoce de matériaux. Il faut reproduire un schéma comme ça de réseau de grossistes qui puisse préparer et distribuer des matériaux en grande quantité.
Alors, on risque d'avoir en fait un renversement de ce que vous évoquiez, Cédric, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait une offre mais pas de demande, la demande se structure, il va falloir que l'offre suive. Aujourd'hui, quels exemples vous pouvez donner de bâtiments et avec quelle proportion ou en tonnage, comment est-ce que ça se mesure, qui ont mobilisé massivement le réemploi d'un certain nombre de matériaux?
Alors, les exemples sur nos opérations, en tout cas chez Groupama Immobilier, comme le disait Mohamed, la dalle de faux plancher technique, c'est un best-seller. Effectivement, il y a une seule filiale qui a été structurée par Mobius dès le départ. Et effectivement, aujourd'hui, il est effectivement en pleine pénurie puisqu'il n'arrive pas à sourcer assez de matériaux pour fournir notre demande et la demande du booster. Une raison simple aussi, c'est un matériau qui n'est pas vu dans un bâtiment puisqu'on le recouvre de moquettes. Ça a été un des premiers sujets pour lesquels ils ont choisi la dalle de faux plancher. Le deuxième, c'est que c'est un matériau très carboné et qui fait que le simple fait d'avoir du faux plancher de réemploi dans un immeuble, on économise beaucoup de carbone. Donc on est prêt à payer en tout cas le même prix que le neuf pour ce matériau de réemploi pour économiser du carbone.
Et parce que ça ne se voit pas.
Et parce que ça ne se voit pas, mais on fait aussi de la moquette de réemploi qui est dessus. Mm-hmm. Ça se voit, mais ça ne se voit pas parce que la moquette de réemploi a aussi la même allure, parfois bien entretenue, qu'une moquette neuve. Donc ça n'a pas de sujet. Et comme le disait Mohamed, aussi beaucoup d'appareils sanitaires. Un autre best-seller aussi qui ne se voit pas dans les locaux techniques, le chemin de câble, qui est très difficile à déposer parce que ça peut se tordre assez facilement. Mais par contre... c'est facilement réemployable dans nos sous-sols et donc c'est intéressant. Nous, on peut aller jusqu'à n'importe quel matériau de réemploi dans nos immeubles puisqu'on a un patrimoine essentiellement haussmannien. Donc, on était déjà habitué à faire un peu de réemploi avec des éléments un peu nobles, voilà. Pour garder le caractère haussmannien des immeubles. Mais sinon, nos confrères du booster, aujourd'hui, ne s'interdisent absolument rien. On a même Covea qui nous a fait un appartement 100% en réemploi, donc un appartement locatif de leur patrimoine. Et je ne pense pas que le locataire soit déçu de vivre dans cet appartement-là. On ne s'interdit rien aujourd'hui, même si certaines filières se structurent Et ce qui est intéressant, je reboucle aussi sur le sujet de l'humain, nous, un des thèmes qui a motivé Groupama, le groupe, de nous aider dans cette aventure et de nous donner les moyens de structurer le booster du réemploi, notamment en finançant une plateforme, la plateforme digitale qui s'appelle Looping, c'est qu'il y avait un petit encart à la fin de nos objectifs en fait, de présentation au groupe, c'est que nous voulions aussi aider à structurer des filières d'emploi non délocalisables dans les territoires. Mmh. Et les territoires, Groupama, en tant qu'assureur, est assez responsable et aime effectivement animer ces territoires. Et ça, ça fait tilt chez eux, en tant qu'assureur aussi de collectivités locales, parce qu'on a, besoin de structurer ces filières d'emploi non délocalisables. Je préfère acheter au même prix des matériaux réemployés ou en tout cas rechappés ou redesignés en France plutôt que de l'acheter en Chine et qu'ils viennent par container. Ça, c'est clair parce que je sais que ça donnera et ça structurera les territoires en France.
Alors justement, Cédric, allez-y.
Un mot sur les tonnages. Oui. Sur les 237 opérations qui sont en booster actuellement, c'est entre 6 et 8 lots sur 20 cahiers des charges. Et comme l'a dit Mohamed, du scompt œuvre, grosso modo architectural. 6 à 8 lots qui débouclent en fait positivement, qui arrivent à poser quelque chose, à importer quelque chose avec un complément à neuf, qui peut être parfois très important. Donc ça tourne et on a vu de tout vraiment tourner. En tonnage, le plus lourd, ça doit être l'opération Gestina Grande Armée, quand ils ont dégrafé des éléments de façade,
d'anciens sièges de Peugeot.
Qui sont passés dans les parkings et qui ont substitué du béton. Là, c'est un winner en termes de tonnage. Sinon, quand vous faites 10 000 m² de faux plancher, ça pèse aussi. Donc, il n'y a pas de véritable règle sur le tonnage. Mais on a vu aussi des éléments de verdure voyager sur une opération d'ETZ Investors où c'est Gali qui a fourni un certain nombre de lots qui venait de réemploi en fait, et ça a permis de garnir en fait un toit terrasse de manière magnifique. Là où ils avaient peu de budget, ils ont réussi à en mettre beaucoup grâce au réemploi.
Alors justement, Mohamed, vous vouliez dire quelque chose ?
Moi, j'ai pas mal d'exemples, mais j'ai des exemples qui sont significatifs. C'est vrai que
petit peu plus près du micro, pardon.
Grande Armée, on connaît bien parce que c'est le live qu'on a fait avec Eiffage, grand projet, et donc il y avait des beaux exemples. Châtenay-Malabry, c'est 1700 sièges d'amphithéâtre qui ont été sauvés. Mmh. C'est pas un seul qui est resté aussi. Donc ça, c'est la première réussite en réemploi il y a en 2018. Et bon, qui n'ont pas trouvé de réemploi ici, mais qui permettent aujourd'hui à une jeune faculté sénégalaise de pouvoir accueillir 1700 étudiants.
Donc ils ont trouvé une destination.
Ils ont trouvé une destination. Donc les beaux sièges
de Châtenay.
De Châtenay sont aussi maintenant à Kaolack au Sénégal. Donc ça, c'est un peu le coup de cœur. Mais sinon, on a pas mal d'exemples. Là, dernièrement, pour une opération de jump à Aubervilliers, c'est 3000 m² de dalles de faux plancher technique aussi. Mmh. Puis 1000 m² de parquet pour un projet de théâtre. Il y a des belles réussites. Et on peut déjà développer, je pense, des filières qui sont éphémères. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire entre Réavi et FH. Déjà, toutes les bases vie, les installations de chantier dans le bâtiment ne devraient pas être en neuf. Elles devraient être faites en réemploi. Donc ça, systématiquement, les installations de chantier chez FH Construction se font en réemploi. Donc des tables, des chaises de réfectoire, des bureaux, des lavabos, etc. Ça doit être assez systématisé pour des installations de 1 à 2 ans. Et ensuite, les maisons du projet, donc c'est inconcevable aussi d'avoir des maisons du projet le temps d'une promotion immobilière pour vendre des appartements et puis ensuite casser le bungalow. Donc on doit pouvoir aller sur du réemploi là-dessus.
Alors justement, vous faites tous les trois le lien. D'une part, Anne, vous parlez d'emplois non délocalisables. Quel autre métier que ceux du paysage et que vous connaissez chez Groupama, de la branche agricole. Cédric, vous avez cité une opération pour DTZ avec les Jardins de Gali sur le réemploi de végétal. Et puis enfin, Mohamed, vous citez un sujet qui est très proche. Xavier, vous dirigez avec votre frère Dominique les Fermes de Gali, un ensemble familial qui est bien connu des Franciliens pour ses activités agricoles et grand public, avec la production agricole horticole, la cueillette, les magasins et les fermes pédagogiques. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que depuis plus de 50 ans, les Jardins de Gali cultivent différentes formes de nature dans les villes, en particulier au service des professionnels, à travers des activités de conception, de réalisation et d'entretien de paysages à l'intérieur et dans les proches extérieurs du bâti. Ces activités vous mettent au contact de l'industrie de la construction et de l'immobilier. Et Mohamed vient de citer le sujet de l'événementiel, du temporaire. C'est aussi une des branches d'activité de Gali. La recherche de l'économie de ressources en événementiel, c'est une évidence. On ne peut pas, en tous les cas, mobiliser à chaque fois des ressources neuves. Elles s'imposent tant d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue économique. Et c'est valable sur beaucoup de métiers de l'événementiel. Et en agriculture, l'économie de ressources est aussi une seconde nature, entre guillemets. Donc, ça peut paraître un peu exotique, mais Cédric, vous avez cité ce sujet. C'est bien ce qui nous lie aujourd'hui. En quoi est-ce que l'économie circulaire pourrait aussi être appliquée au jardin? À votre avis, Xavier, quels sont les liens entre économie circulaire et jardin?
Alors, les liens, ils sont essentiels parce que nos bases agricoles nous le démontrent chaque jour et cette année encore plus. Hein, on a réussi à sauver du gel plus de 15 hectares de vergers grâce à la réutilisation des eaux de stations d'épuration, grâce à une nouvelle installation qui a été mise en œuvre et qui récupère à côté d'une des plus grosses stations en termes du plus moderne d'Europe des eaux de qualité A+, qui ont le droit légalement d'être réutilisées en arrosage agricole. Voilà. Et donc en arrosage anti-gel, avec une puissance de feu qui est absolument nécessaire pour protéger des nuits qui auraient pu être fatales de début avril. Donc en fait, le réemploi est inhérent à notre métier de l'agriculture. Ensuite, le réemploi, naturellement, en matériel, c'est aussi une seconde nature de l'agriculteur quand il sait bricoler. Et enfin, le réemploi à travers les végéteries ou à travers les déchets organiques est quelque chose d'inhérent pour substituer la question de l'engrais et de l'ammonitrate qui, on le sait, pour ceux qui sont proches du monde agricole, avec la crise que nous vivons, a triplé de valeur. Et donc, ça veut dire que tous les réemplois organiques sont regardés avec une grande attention. Donc, la question du réemploi dans le vivant, c'est inhérent à notre ADN culturel de base. Après, la question du paysage est une question essentielle, qui a une très forte demande végétale. Mais c'est un secteur d'activité qui n'est pas très structuré aujourd'hui par rapport au réemploi. Alors nous avons la chance, au niveau de notre petit groupe familial, d'avoir des métiers qui se complètent et nous-mêmes d'avoir des plateformes de réemploi qui font qu'on apprend ce métier. Et on en a fait ici la démonstration sur ce jardin circulaire aux Tuileries. Mais on apprend ce métier, pourquoi? Parce que la qualité des matériaux utilisés sur des jardins temporaires qui peuvent parfois être des demandes pour 3, 4, 5 ans, hein, ou des jardins qui sont livrés dans une première version par un promoteur immobilier et l'usager, premier occupant, décide de changer l'écriture de jardin et demande à ce qu'on refasse. Voilà. C'est assez courant. Et donc, en fait, nous avons appris ce métier du stockage, de l'entretien quand il s'agit de matériel vivant, et du rechappage quand il s'agit de bacs, de jardinières, etc. Et enfin, donc ça nous a amené à travailler sur des formes de jardins qui sont des jardins de réemploi, mais avec des qualités de finition et des qualités de produits qui parfois sont assez méconnues, parce que quand on fait le jardin de l'innovation de France Télécom en 2020 avec des moyens qui étaient très conséquents, on le fait avec une épaisseur de métal qu'on n'utilise même plus aujourd'hui.
En 2001 plutôt.
2001.
Oui.
Oui, en 2001.
Oui, oui, oui. Puisque oui, oui. 20 ans plus tard.
20 ans plus tard, en 2021-2022, on le réutilise. Donc 20 ans plus tard. Et on a des produits qui passeront le siècle. Voilà. Donc en fait, on est dans une situation où le réemploi correspond à une nature profonde du jardinier, quand il est vraiment intime de son métier. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi la question du réemploi de l'eau à l'échelle de l'immeuble. Parce que la question de l'eau est une question coûteuse, la question de l'eau est une question qui va être rare, et la question du recyclage des eaux chargées, parfois d'engrais, notamment dans les formes hors sol, est une question essentielle pour éviter de polluer les eaux usées d'eau chargée. Donc en fait, voilà, le réemploi, il se traite aussi bien en amont sur la source qu'en aval sur les consommations et sur le temps long.
Alors, le réemploi, c'est peut-être aussi, vous allez me dire les uns et les autres si c'est une approximation, le fait de ne pas détruire des choses existantes qui n'ont peut-être pas eu de première vie. Je veux parler des végétaux. Vous l'avez évoquait très brièvement Xavier à l'instant, il y a un déficit d'offres en matière de végétaux, de pépinières, les arbres, les arbustes, notamment en France. Il y a une demande qui est beaucoup plus conséquente que l'offre, portée notamment par les aspirations sociétales, la nécessité d'adapter les villes au changement climatique, pardon, et donc de planter, et les promesses de plantation qui s'en suivent. Je renvoie aux chiffres notamment annoncés par le candidat depuis élu président de la République Emmanuel Macron de 2 arbres par habitant à l'horizon 2030, ce qui fait 140 millions d'arbres en quelques 8 ans. C'est très significatif. Comment est-ce qu'on peut se saisir de ce sujet, Xavier, à la racine, si je puis dire ? Est-ce que tous les arbres vont se retrouver sur le marché ? Ou est-ce qu'il y en a une partie qui aujourd'hui échappe et n'est pas plantée ?
Alors la question des arbres et des arbustes, parce qu'il faut traiter les deux ensemble, est une question essentielle parce que nous sommes un pays qui était historiquement producteur et qui est devenu importateur d'une grande partie de son patrimoine arboré. Les Allemands, les Italiens, les Belges, grands marchands de ce sujet, et les Hollandais ont petit à petit réduit la production française. La moitié de la production d'arbres en pleine terre ou en conteneur, mais en pleine terre principalement, se situe dans la région rhône-alpine. Voilà. Donc il y a un savoir-faire français, et il faut savoir que dans une pépinière de pleine terre, vous avez aujourd'hui une démarque connue, qui est de l'ordre de 20% des arbres à 25% de ce qui est produit, qui est soit brûlé, soit broyé. Tout ça parce que le format de l'arbre, un petit défaut dans une CP, une branche qui manque, un arbre qui ne passe pas, qui ne monte pas parfaitement tout droit pour une politique d'alignement, une blessure au pied de l'arbre qui fait que cet arbre n'a pas de valeur marchande dans un cahier des charges où tout doit être parfait. Or, dans tous les parcs que nous aimons, ou parfois les arbres que nous avons le plaisir de regarder ou de chérir, et parfois chéri par sa forme, parce qu'il a été blessé jeune et qu'il est poussé de travers. Et en fait, c'est tout simplement un autre regard qu'il faut porter sur le patrimoine arboricole et arbustif des grandes pépinières françaises pour faire baisser ce taux de démarque connu, probablement de 25 à 5 à 10% maximum. Et là, il y a un grand chantier qui est en fait de considérer qu'il y a des plantes atypiques qui peuvent trouver leur place parce que nous sommes face à 2 choix. Soit on multiplie l'idée des forêts urbaines en plantant des tout petits baliveaux et puis on ira supprimer. Mais il faut beaucoup de temps et puis il faut que la maintenance et la qualité de la suppression soient au rendez-vous, ce qui n'est pas évident. Voilà. Soit on peut considérer, mais regardons ce que nous avons déjà dans les milliers d'hectares de pépinières françaises, regardons ce qui va être jeté et sélectionnons-le. En plus, on le fera en faisant des économies, voilà, pour les placer dans des formes adolescentes, dans des lieux qui méritent de les recevoir.
Donc pour nos auditrices et nos auditeurs, les baliveaux, ce sont de tout petits arbres très jeunes et les CP, ce sont des arbres avec plusieurs troncs, entre guillemets. Ce sujet...
Moi, ça me fait penser, très clairement...
Cédric.
Oui, moi, ça me fait penser au réemploi, alors physique, du monde industrialisé. En fait, dans l'économie circulaire, il y en a qui ont fait 2 cercles en disant qu'il y avait une technosphère qui devait boucler d'un côté et puis une sphère naturelle qui pouvait boucler grâce à ce genre de réflexion. Mais ça me fait vraiment penser à votre réflexion au fait que certains, dans le réemploi, font de l'upcycling, c'est-à-dire font du défaut ou de la matière première quelque chose de plus beau que l'initial en le retravaillant et en l'intégrant dans une nouvelle esthétique, nouvelle fonction, etc. Finalement, si on pouvait avoir l'habitude de ça plutôt que de l'ordonnancement brutal ou trop parfait qui est l'exigence de... Voilà, qui est l'exigence actuelle, je pense qu'on aurait gagné, en fait.
Alors justement, le beau, question très relative, je voudrais vous la poser à tous, avant bientôt de conclure. Il y a un objectif de réduction des déchets, si on vous entend bien, de bon sens, entre guillemets, derrière un objectif de carbone, de réduction des émissions de carbone, Anne.
Réduction et surtout sauver les ressources naturelles.
Et sauver... Les ressources, et puis aussi de création d'emplois, etc. On voit parfois des architectures ou des paysages qui se veulent bas carbone et qui le revendiquent et qui le manifestent par un vocabulaire esthétique. Je certains appellent l'architecture ou les paysages palettes. Ça se voit. Et il faut que ça se voit pour qu'on comprenne, presque, que c'est issu d'une seconde main, etc. Parfois, c'est inhérent. Parler des dalles tout à l'heure, ça peut porter des stigmates qu'on va cacher ou non. Et parfois, c'est bluffant, on ne sait pas. D'après vous, quel est le sens aujourd'hui qui est en cours sur cette esthétique? Est-ce que c'est un poids qui freine le développement des projets? Est-ce qu'au contraire, c'est une forme d'alibi, c'est-à-dire il faut qu'on mette un peu de réemploi et que ça se voit? Ou est-ce qu'en fait, c'est un outil dans la palette, on peut choisir de le montrer, on peut aussi faire du réemploi sans que ce soit visible et de ne pas être obligé d'en faire des caisses, si je puis dire, pour le suraffirmer. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed?
C'est intéressant parce que vous parlez de palettes, mais chez Réhabi, on pense qu'il y a un grand, grand gisement de palettes, que ce soit les chantiers, pour bien les connaître, il y a ce qu'on appelle des palettes perdues, qui sont une vraie verrue pour les conducteurs de travaux qui ne savent pas quoi en faire et qui les mélangent dans les bennes. Les palettes perdues, celles qui ne sont pas consignées, celles qui sont un peu moins épaisses, etc. Donc il y a une vraie filière à développer, qui est créatrice d'emplois, parce qu'il faut aller les collecter, il faut aussi les démanteler. Il faut ensuite les passer dans des raboteuses, les dégauchir, et ensuite on a une matière bois qui du coup, pour brut, qui va être belle et qui va permettre notamment, pour faire le lien avec le jardinage, de pouvoir faire une gamme d'aménagements, d'équipements, des bacs à planter, tout ce qui aujourd'hui est acheté neuf peut être aussi une gamme assez en série qui peut être fabriquée grâce à ce qui en apparence n'est pas très beau, parce qu'une palette perdue, c'est pas très beau. Donc ça, c'est un vrai enjeu qu'il faut développer et qui va permettre de créer à la fois d'activités économiques et aussi de l'emploi là-dessus. Et pour revenir sur l'aspect esthétique de quelque chose qui a été dégradé par le temps, pour moi, je pense que c'est plutôt un avantage. C'est vraiment un avantage. Mmh. On a l'exemple de tous les matériaux issus des chantiers de construction, tout ce qu'on appelle les panneaux de contreplaqué de décoffrage, qui ont été maltraités, des coups de marteau, etc. On arrive à faire des jolis meubles, il suffit de les nettoyer, de les vernir, et on a les stigmates un peu de leur vie. On peut aussi reboucher les trous avec des pièces de bois, donc on a des petits points comme ça de couleur plus claire, parce que c'est des panneaux souvent noir foncé, et on a quelque chose de très esthétique, de très conçu, très design. Donc il faut plutôt
s'en servir. Ouais.
Jouer aussi sur l'aspect un peu rare et unique de la chose, et qui aussi donne une valeur à un matériau qui est plein de ciment, qui finit logiquement en benne.
Cédric, Anne, vous, la maîtrise d'ouvrage.
Mais la maîtrise d'ouvrage et investisseur, au départ, on se disait mettre sur le marché un immeuble en location avec des matériaux de réemploi, est-ce que le locataire ne va pas nous demander une décote du loyer?
Et alors?
Eh ben non, au contraire, le locataire, il est content de rentrer dans un immeuble qui a économisé du carbone et des ressources. Et surtout, il peut valoriser sa démarche au-delà des certifications un peu bateaux de nos métiers. Il peut surtout valoriser cette démarche opérationnelle et à impact immédiat qui, effectivement, est valorisée auprès de ses collaborateurs. Et ça en fait un nouvel atout pour un immeuble. Et ça ne se réduit pas simplement à une simple idée économique, mais je pense sincèrement que le réemploi et toute l'intelligence, Mohamed vient de le dire, il y a énormément d'intelligence dans le réemploi des matériaux, parce que quand vous n'avez plus de ressources, ni économiques, ni naturelles, vous devenez beaucoup plus intelligent. Et donc ces bâtiments-là vont devenir encore plus désirables que les bâtiments classiques.
Classique.
Ouais, Cédric, j'avais un copain américain qui me disait si on enlève un zéro à un budget, tout le monde devient plus intelligent.
Voilà.
C'est pas mal, mais il y a déjà toute une palette, une variation en fait sur le réemploi et sur l'expression ou l'affirmation d'une certaine esthétique, mais donc on peut aller du très revendicatif à celui qui doit absolument pas se voir. Entre les deux, on va mettre de l'upcycling, on va avoir des objets qui vont être très modernes et qui vont être tellement bien rechappés que ça va être absolument fantastique. Il y a du réemploi de matériaux nobles dans le luxe, etc., qui se fait depuis très longtemps dans l'haussmannien, etc. Donc il y a toute une gamme, en fait, en fonction de qui on est, comment on souhaite revendiquer le réemploi, une gamme d'expressions. Mais la question, si on fait un pas en arrière, c'est que maintenant, si on veut construire bas carbone, si on rentre dans une ère dans laquelle on va vraiment devoir faire l'effort du bas carbone, on a plusieurs armes sur la table. On a du réemploi, On a des matériaux bas carbone qui sont en train d'arriver, hein, des innovations qui sont en train d'arriver. Mais la conclusion, c'est qu'on n'a pas encore fait architecture de tout ça. Enfin, c'est faire architecture de ce nouveau monde qui arrive, dont les propositions techniques sont en train d'arriver, ça n'est pas encore tout à fait vrai. Alors moi, j'ai une ambition, c'est que peut-être en 2120, on se dise en arrière, mais tiens, dans ces années 2020-2030, il y a eu l'architecture s'est saisie du sujet du réchauffement climatique et de l'équilibre des ressources, et qu'on reconnaisse un virage esthétique qui soit aussi prégnant que l'haussmannien ou d'autres choses qui ont été des grands événements en fait du passé. Donc on peut imaginer ça, et donc avec quelques grandes entreprises et avec de nombreux architectes, nous on a lancé un mouvement qui s'appelle Unisson, qui vise justement à confier aux architectes l'aspect culturel qui va nous séduire dans le monde de demain. Il faut vraiment que les architectes qui sont capables de faire le lien entre nos émotions et la grammaire, enfin l'ensemble de la technique du bas carbone, comprennent le virage qui peuvent marquer dans la construction avec une nouvelle architecture du bas carbone et du vivant, parce que finalement, il n'y a que ça qui compte, du bas carbone et du vivant, de l'équilibre entre les deux. On en fait donc un appel aux architectes. C'est tout à l'heure, c'est sur Jardin Jardin, mais c'est depuis deux semaines, ce sera pendant tout l'été, pour que les solutions et l'ensemble que cette écriture architecturale émerge. Et on va le faire émerger grâce à différents partenaires sur Paris et un tour de France des CAUE, donc des centres d'architecture et d'urbanisme locaux, pour véritablement faire prendre cette mayonnaise d'une nouvelle architecture. Et on est en filiation ou en du Bauhaus européen qui a été appelé par la présidente de la commission, qui a voulu justement une révolution dans les pratiques, dans le design, dans tout ce qui a fait le Bauhaus à l'époque doit être reproduit au titre du bas carbone. On a répondu à l'appel et donc on souhaite fabriquer la copie avec tous nos amis de Unisson, fabriquer la copie française en réponse à l'appel au Bauhaus européen.
Eh bien, l'appel est lancé. Nous arrivons au terme, hélas, de cette émission. Nous aurions pu aborder beaucoup de choses, aussi concernant les végétaux. Vous l'avez dit, Anne, les locataires ne demandent pas de décote sur le loyer. J'en déduis que les investisseurs et les professionnels de l'immobilier sont prêts à payer aussi cher pour des arbres atypiques que pour des arbres normaux.
Ils sont plus beaux.
Ils sont plus beaux, voilà. Il y a aussi le sujet du stockage qui a été abordé par Mohamed. Il faudra sans doute poser ce sujet sur la table lors de la déconstruction d'opérations avec l'entretien, qui est la différence qu'évoquait Xavier tout à l'heure, pour les végétaux. On retire un arbre ou un arbuste, un beau sujet, dans les règles de l'art d'un chantier, avant qu'il puisse être replanté au même endroit ou ailleurs. Il faut pouvoir l'entretenir. Et qui consent à payer pour cela, sans oublier la maintenance, qui est probablement quelque chose qui différencie le vivant de beaucoup d'autres corps de métier dans le bâtiment. Mais au fond, ce que j'ai envie de retenir, c'est ce sur quoi vous venez de conclure les uns et les autres, c'est la sensibilité, ce rapport sensible, l'immersion dans un bâtiment, le plaisir qu'on peut trouver à y vivre, ou l'aversion pour une architecture ou un paysage. En tout cas, l'absence d'indifférence, c'est bien ce qui peut nous permettre, en plus de la technique, des humains qui nous permettent de faire cette transformation et cette massification, de l'accepter et d'ouvrir cette nouvelle ère. Allez voir sur les internets pour celles et ceux qui parmi vous nous écoutez ou nous regardez à distance de l'événement Jardin Jardin aux Tuileries pour découvrir Circulaire, circule apostrophe E accent grave RE, et vous verrez qu'on peut produire un paysage avec des matériaux 100% de seconde, voire d'une plusieurs mains, en tous les cas, issus de l'économie circulaire et du réemploi, et vibrer une émotion. Merci à tous nos intervenants. Merci Anne Koch, directrice du développement durable et de l'innovation de Groupama Immobilier. Merci Xavier Laureau, directeur général des Jardins de Galie. Merci Mohamed Amaoui, président fondateur de Réavi et par ailleurs salarié d'Ephage Construction. Et enfin, Cédric Borel, A4MT. Unisson, portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien, à la réécoute sur radio.imo et radioterritoria.fr.
Ville.
Nature.
Végétale.
Architecture.
Quartier.
Paysage.
Biodiversité.
Culture. Le vivant et la ville s'allient à Jardin Jardin, aux Tuileries.